en séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le 28 janvier 2008, Charles Vallée, directeur général des éditions Dalloz, a prononcé une communication intitulée « Le droit vu par un éditeur devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques ». Retrouvons-le en grande salle des séances.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous dis d'abord ma très vive et très sincère gratitude, et ce n'est pas par simple et pur respect des rites, mais parce que je ressens vraiment et pleinement l'honneur que vous m'accordez aujourd'hui, l'honneur que votre illustre compagnie m'accorde. Vous m'avez proposé de traiter le sujet intitulé « Le droit vu par un éditeur ». Ma façon de l'appréhender sera naturellement influencée par ma propre expérience, mais je pense que la plupart, j'espère, que la plupart de mes remarques pourraient être partagées par d'autres éditeurs juridiques analogues. Je viens devant vous avec un héritage, celui laissé, légué par le fondateur de la maison Dalloz, qui est pour Dalloz, pour des générations d'étudiants, pour tous les praticiens du droit et peut-être pour toutes et même sans doute, pour toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont approché le monde du droit, est sans aucun doute l'un des noms les plus célèbres. C'est un beau nom, aux belles sonorités, un nom en six lettres, dont les deux L en son milieu, une fois inversées, évoquent irrésistiblement la balance de la justice. Nous avons découvert ce logo il y a une dizaine d'années, par tâtonnements successifs. J'y ai bien sûr pris ma part, et peut-être ai-je été aidé en cela par le fait que mon patronyme, beaucoup plus modeste, compte également six lettres, avec également deux L en son milieu, qui, une fois inversées, mais je n'insiste pas. Pour les francs-comtois, Dalloz possède, pour parler droit, une irréfragable présomption d'origine, puisque Désiré, il avait un prénom, Désiré Dalloz, naquit à Sémoncel, dans le département du Doubs, en 1795. Il en fut un temps député, il fut toute sa vie avocat, et à un moment de sa carrière, président de l'Ordre des avocats, à la Cour de cassation et au Conseil du roi. Et tout au long de sa vie professionnelle, absolument passionné par l'édition juridique. Deux dates, 1824, il créa le recueil Dalloz, hebdomadaire généraliste que nous avons bien entendu toujours à notre catalogue et qui a donc traversé des décennies. Et en 1845, il créa l'entreprise éponyme. Depuis, je crois pouvoir dire que la réversibilité de l'équation Dalloz égale droit, droit égale Dalloz, s'est peu à peu imposée. C'est que cette maison, qui a du reste appartenu à sa famille jusqu'en 1989 et qui a été gérée par ses descendants, directs ou collatéraux jusqu'en 1989, c'est que cette maison doit beaucoup à son créateur, qui fut l'inventeur d'une méthode de documentation juridique fondée sur le respect absolu des sources et sur la rigueur du commentaire critique. Elle doit beaucoup à ses intuitions de juriste averti et précurseur. Pour Napoléon Ier, la loi réglerait tout, pour toujours et pour tout le monde. Et Désiré Dalloz comprit que ce n'était là qu'un commencement. L'empereur se berçait sans doute quelque peu de l'illusion qu'avec ses codes, ses merveilles de logique et de clarté, comme disait Stendhal, qu'avec ses codes, il y aurait de moins en moins de procès, et que les avocats, qu'il aimait très modérément, à l'exception de ceux à qui il confia la rédaction des projets de code civil, que les avocats seraient de moins en moins utiles. En fait, et Désiré Dalloz le comprit très tôt, la codification allait ouvrir de très grands espaces nouveaux à la jurisprudence. Il resterait en effet à appliquer, à interpréter et même à adapter la loi, non seulement aux détails infinis des espèces imprévues, mais encore et surtout aux conditions très changeantes de l'économie et de la société. Cela ouvrait donc à l'édition juridique la perspective de donner à des générations de juristes des instruments de travail sûrs et solides. Désiré Dalloz a agi en le pressentant, et pour ne prendre qu'un exemple, en pressentant que, sans aucune autre intervention du législateur, les très fameux articles 1382 et suivants du Code civil pourraient faire face aux immenses développements, aux immenses chapitres du droit de la responsabilité ouverts par le développement prodigieux des techniques. Il a agi également en prévoyant que cette jurisprudence ne manquerait pas en cascade de susciter un très grand mouvement essentiel de doctrine explicative qu'il conviendrait également de publier. Je viens donc devant vous avec cet héritage et en ayant également conscience d'être un passeur, un intermédiaire, un passeur entre les auteurs et les lecteurs utilisateurs. Je suis président de Dalloz depuis maintenant près de 17 ans. J'ai donc eu et je continue d'avoir ce privilège d'être un passeur entre la science juridique et la connaissance du droit. Et cela grâce à nos diverses productions que j'évoque très vite, 33 codes, 26 revues, dont 2 hebdomadaires, 1 millier d'ouvrages à notre catalogue, 40 répertoires qui constituent une encyclopédie juridique mise à jour de façon permanente et aujourd'hui un certain nombre de sites Internet. J'ai en effet également pour mission de permettre à la maison de prendre place dans cette révolution technique qui bouscule aujourd'hui beaucoup de choses, y compris l'édition juridique. Et puis j'ai pour mission de suivre au quotidien ce que l'on appelle communément la chaîne du livre. Je me plais souvent à dire à nos équipes que chaque livre, chaque produit éditorial est en soi une entreprise, souvent une entreprise à temps long, parfois parsemée d'embûches, quelquefois inattendues. J'en citerai une seule. En 2000, nous avons décidé de rééditer, je devrais presque dire de réimprimer, car nous n'avions rien d'autre à faire, si je puis dire, un ouvrage de référence, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France, de 1789 à 1958. C'est un ouvrage aux confins de l'histoire, de la science politique et du droit constitutionnel. Son auteur fut l'un des vôtres, c'est Jean-Jacques Chevalier. Comme c'était une réimpression, nous n'avions donc aucune intervention, ni sur la substance du texte, ni sur son ordonnancement. Nous pouvions donc nous estimer à l'abri de tout souci. Et pourtant, quelques jours après que ce livre est mis en place auprès de notre réseau libraire, quelques 600 librairies, feuilletant d'un doigt nostalgique, car j'avais moi-même beaucoup fréquenté cet ouvrage au cours de mes études, je tombe, c'est le cas de le dire, sur un chapitre intitulé « De Mitterrand à Poincaré ». Je me reporte très inquiet à la page appelée par le chapitre, et là je lis cette phrase, je n'invente rien, « Dès janvier 1920, Mitterrand n'était plus socialiste ». Je connaissais la précocité, bien sûr, de cet homme-là. Vous l'avez compris, quelqu'un avait changé 1000 rangs en Mitterrand. Ce quelqu'un n'appartenait nullement à la maison Dalloz. Le bon à tirer avait été très bien donné, mais un jeune compositeur imprimeur qui n'avait jamais entendu parler de Millerand avait systématiquement changé Millerand en Mitterrand. Et les procédés informatiques de nos jours permettent ce genre. Il suffit d'avoir recherche et remplace, et un clic, et toutes les occurrences changent instantanément. Je redeviens sérieux si j'ai jamais cessé de l'être pour vous dire que l'expérience m'a peu à peu convaincu que les relations entre l'éditeur juridique et le droit sont principalement de deux ordres. L'éditeur juridique a une double mission, un double pouvoir, je serais presque tenté de dire un double devoir. D'une part, de contribuer à éclairer le droit, et d'autre part, de contribuer à diffuser le droit. Le droit est éclairé par l'éditeur. Exprimer son rôle de cette manière ne porte pas, je crois, la trace d'une prétention. C'est simplement pour souligner qu'il y procède grâce à ses auteurs, grâce à son estampille et grâce à ses supports. Sans ses auteurs, un éditeur juridique, en effet, ne serait rien. C'est un truisme. Le droit est immense. C'est une autre banalité. Cela veut donc dire qu'il est impossible pour un éditeur juridique de disposer en interne de toutes les compétences souhaitées. Et surtout, nos lecteurs utilisateurs souhaite trouver dans nos productions des opinions faisant autorité, ce que l'on appelle la doctrine. Il souhaite des signatures. Ce sont celles, bien sûr, de professeurs de droit, de hauts fonctionnaires, d'avocats, de magistrats. En d'autres termes, le recours à des rédactions internes qui, au demeurant, est pourtant une spécificité de l'édition juridique, si on la compare, par exemple, à l'édition scolaire et encore davantage à l'édition de littérature générale. Même si c'est une caractéristique de l'édition juridique, ce recours est toujours relativement limité dans la production juridique globale d'une maison de ce type. Ça représente environ 10 à 15 % de la production. Nos auteurs apportent d'abord un éclairage pédagogique, naturellement destiné aux étudiants en droit. Je pourrais citer d'innombrables exemples, j'en prendrai un seul. Depuis plus de 50 ans maintenant, des générations d'étudiants en droit ont été familiarisés avec la jurisprudence du Conseil d'État qu'ils ont mieux comprise grâce à un ouvrage de référence qui s'appelle « Les grands arrêts de la jurisprudence administrative ». Nous en sommes à la 16e édition et nous avons célébré le cinquantenaire de cet ouvrage l'année dernière. Cette fonction est également essentielle pour tous les praticiens. Elle peut se décliner à tous les temps. Et, par exemple, le rôle prospectif de la doctrine, et donc par le recours à nos auteurs, consistera à suggérer par tel ou tel de nos auteurs au législateur ou au juge ce qu'il conviendrait de faire pour améliorer le droit. Un exemple, « Le silence et la gloire », article très célèbre de Jean Carbonnier, paru au Dalloz de 1951 à propos d'un arrêt important de la Cour de cassation qui mettait en lumière la notion et les dangers de la faute par omission. Et pour le présent, cet éclairage est naturellement à la fois pédagogique, technique et par exemple dans nos diverses revues, le recueil que j'ai déjà cité ou l'actualité juridique droit administratif, notre autre hebdomadaire, qui chaque semaine commente, analyse, entre autres et principalement la jurisprudence du Conseil d'État. Dans tous les cas, l'éditeur juridique et dans toutes nos productions veille au respect de la liberté des auteurs et des commentateurs à l'égard du législateur ou du juge. Nous savons certes que juger est une mission délicate et que légiférer est un art difficile, mais nous préservons la liberté de blâmer, tout en prônant parfois, par persuasion et sans toujours y parvenir, une certaine modération à la fois du ton et du style et de la substance de tel ou tel article. Il revient ainsi à ma mémoire une note de 1994, écrite par un auteur et non des moindres, qui décernait, c'était l'intitulé de son article, « Un zéro pointé à la chambre commerciale », sous-entendu à la chambre commerciale de la Cour de cassation, cela fit quelques bruits. Nous croyons néanmoins aux vertus du débat. Les auteurs ne sont pas bridés. Certaines disputes sont vives et peuvent parfois même revêtir la forme de véritables embrasements théoriques qui pourraient faire sourire, mais nous pensons qu'ils sont toujours féconds pour la réflexion juridique. Un seul exemple, la cause. La cause, c'est une notion emblématique, mystérieuse, énigmatique du droit français. Elle a cela de fascinant qu'à mesure qu'on l'étudie, son mystère s'épaissit. Du reste, un grand professeur de droit des années 1930, Rouast, disait « Si vous avez compris la cause, c'est qu'on vous l'a très très mal expliqué. » Alors, périodiquement, cette notion génère des morceaux de bravoure entre civilistes. Par exemple, en 2006, Jacques Guestin a écrit un article assez vif sur cette question. Il s'en prenait à l'un de nos autres auteurs, mais nous les partageons, ces auteurs auxquels a répliqué avec une verve égale Denis Mazot, qui avait intitulé son article « Cause toujours ». Alors, à l'oreille, ça peut paraître extrêmement impertinent dans un milieu qui pratique beaucoup la courtoisie, mais ça n'est qu'à l'oreille, car quand on lit l'article, c'était « cause, virgule, toujours, point de suspension », ce qui est loin d'avoir la même signification. L'éditeur contribue également à éclairer le droit, vous disais-je, grâce à son estampille. C'est là le rôle emblématique de sa marque. De sa marque Ombrelle et aussi de ses différentes marques, Ciré, les actualités juridiques, Delmas, Argus, Juris Association qui sont chez Dalloz. Et de ses collections, les Précis, les Grands Arrêts, la collection des Grands Arrêts, les Mémentos, etc. Tout cela crée, en principe, un climat de confiance entre l'éditeur juridique et le lecteur utilisateur. Alors ici, il y a deux conséquences possibles. Il y a d'une part celle qui flatte beaucoup la satisfaction de l'éditeur et qui prend la forme d'une phrase que les uns et les autres nous pouvons parfois entendre, soit dans un prétoire, soit dans un amphithéâtre ou dans un cabinet d'avocats. J'ai lu cela au Dalloz. Alors, c'est pas trop où, mais c'est au Dalloz. Et ça peut suffire comme explication. On ne sait pas si c'est au recueil ou dans tel ou tel ouvrage. C'est ici la marque qui transcende l'œuvre ou l'auteur. Mais à l'inverse, la modestie de l'éditeur doit toujours affleurer, car certaines œuvres transcendent la marque. On dira le Rivero, le Favoreux, le Derrida, pour parler par exemple d'un ouvrage portant sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. Et cela me conduit à parler des supports. Je vais en effet à présent évoquer les relations entre le papier et le numérique. Et il ne s'agit plus seulement de se projeter vers l'avenir, mais de parler des relations actuelles entre ces deux supports. Et la question est plus précisément de savoir si le papier risque d'être détrôné par le numérique. Première remarque, l'Internet se prête évidemment très bien à l'édition juridique, en ce qu'il permet une valorisation, une actualisation des fonds, en particulier, mais pas seulement, s'agissant de l'exploitation des périodiques, c'est-à-dire des revues. La valorisation des fonds se traduit par une facilité, par une rapidité d'accès à des documents grâce à des critères au préalable énoncés, dont nom d'une des parties à un procès, date d'un arrêt, nom d'un commentateur. Ainsi, les liens hypertextes permettent de parcourir instantanément la distance jusqu'alors presque infranchissable, séparant des documents dans l'espace et le temps. On peut dire d'une certaine façon qu'Internet fait fi de l'espace et du temps, en particulier s'agissant de l'édition juridique. Cette valorisation se traduit aussi par des croisements dont les juristes sont très demandeurs entre la jurisprudence, qui de surcroît peut être donnée en texte intégral, pour des raisons évidentes de moindre encombrement, et les articles de doctrine, ce sont des références croisées allant de l'une ou l'autre. Cette valorisation entre pleinement dans la mission de l'éditeur juridique d'aujourd'hui et elle relève beaucoup du savoir-faire de ses rédactions internes. L'actualisation des fonds, en second lieu, concerne tous les produits éditoriaux. Elle rend possible, par exemple, la mise à jour permanente de nos codes. Elle transforme ces espaces clos que sont les codes, aussi riches soient-ils, en espaces ouverts sur toutes les autres sources du droit. On peut donc estimer, avec la prudence qui s'impose, que le stockage, l'agencement, la consultation documentaire passeront de plus en plus par les supports numériques, mais l'analyse continuera d'abord d'être assurée, accueillie par le support papier. J'ai donc la conviction, étayée par l'observation, que le numérique est encore et sera sans doute pour longtemps encore plus complémentaire que substituable par rapport au papier. C'est cet ensemble de réflexions qui ont conduit, quoi qu'il en soit, nos lancements de sites Internet correspondant aux grandes matières juridiques, qui nous permettent d'assurer une plus grande diffusion du droit. C'est de cette deuxième mission de l'éditeur juridique que je vais parler à présent. Le droit est diffusé par l'éditeur. C'est évidemment une mission de médiation qui a évolué et qui pour autant présente quelques caractères immuables. C'est une mission de médiation. Je poserai ici trois questions. Peut-elle être chiffrée? Peut-elle être concurrencée? Est-elle encadrée? Peut-elle être chiffrée? Oui, évidemment. Je donnerai quelques chiffres rapides. En 2007, nous avons diffusé quelque 1 600 000 unités. J'entends par unité, livres, ouvrages, etc. Je ne parle pas du contenu, s'agissant des revues, d'articles, etc. Ce serait beaucoup plus. Ça représente à peu près entre 250 et 300 nouvelles éditions par an, ce qui évidemment est très intéressant, puisque cela signifie que nous avons beaucoup d'ouvrages qui en sont à la 15e, à la 20e, voire à la 25e édition. 40 nouveautés et un mot rapide des meilleures ventes. En ce lieu, je ne parlerai pas de best-seller. Entre 100 et 120 000 codes civils chaque année, c'est notre numéro 1, 55 à 60 000 codes du travail, c'est en gros le numéro 2, lexique des termes juridiques dû à la rédaction et la signature d'auteurs prestigieux, 55 à 60 000 exemplaires par an, pour un marché qui n'est pas gigantesque, qui est loin d'être gigantesque, nous sommes très loin de celui du grand public de la littérature générale, par exemple. Cette mission peut-elle être concurrencée? Ici, il faut évoquer ce que l'on appelle communément l'explosion du droit. Comment ne pas en parler? Quelques repères. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a quelque 8000 lois en vigueur, 400 000 actes réglementaires. Le volume des décisions de justice rendues est tout à fait considérable. Près de 200 000 arrêts rendus par les diverses cours d'appel. La Cour de cassation en 2006, pour la seule matière civile, 25 000 arrêts. Je ne parle pas des affaires pénales et commerciales. La norme juridique s'européanise, s'internationalise. Nous connaissons donc un réseau de plus en plus serré de conventions internationales et le droit communautaire irrigue et déborde celui des États membres. Cette abondance, pour ne pas dire cette surabondance, dont, au demeurant, nous aurions mauvaise grâce, nous, à nous plaindre, a cependant été à juste titre dénoncé, par exemple par un auteur et non des moindres encore, qui a pu écrire en 2006 « L'action politique a pris la forme d'une gesticulation législative. La loi doit être solennelle, brève et permanente. Aujourd'hui, elle est bavarde, précaire, banalisée. » Cette dénonciation rejoignait celle de Jean Carbonnier, pour qui, je cite le titre d'un article célèbre du doyen Carbonnier, « Le silence législatif est d'or ». Indiscutablement, le meilleur connaisseur du code civil que l'on ait jamais eu, le doyen Jean Carbonnier avait imaginé, pour se mieux faire comprendre, un article zéro du code civil qu'il avait rédigé comme suit, avec malice, « L'amour du droit est réductible en cas d'excès ». Cette inflation de textes a donné naissance à des exigences légitimes d'accessibilité de la loi, voire du droit dans son ensemble, incluant la jurisprudence. C'est la loi du 12 avril 2000 qui prévoit que la mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public. Pour aller vite, c'est Légifrance. Légifrance, c'est le site officiel du gouvernement français qui donne gratuitement accès aux textes juridiques. Et puis, ce sont tous les sites des différents ministères. Alors, la question est de savoir s'il y a un risque d'immixtion des services publics dans cette mission de diffusion du droit, historiquement laissée à l'initiative de l'édition privée. Et donc, une forme de concurrence entre édition publique, d'une certaine manière, et édition privée. Je ne le crois pas, dès lors que les pouvoirs publics ne diffuserait que des données brutes, sans aucune autre forme de transformation. Or, nous constatons parfois quelques glissements. Glissements qui ont d'ailleurs été très justement et fortement dénoncés par un rapport du président Dieudonné Mandelkern. Non pas davantage si les principes qui sont du reste contenus dans des textes réglementaires toujours en vigueur continuent d'être respectés. L'édition publique ne pourrait éventuellement se substituer à l'édition privée à une double condition. D'une part, qu'il y ait carence de l'édition privée, d'autre part que cela entre pleinement dans sa mission, on pense bien sûr, par exemple, au journal officiel. En d'autres termes, là où commence le savoir juridique, fruit de la pensée et du commentaire des auteurs, doit s'arrêter la diffusion juridique par les pouvoirs publics sous peine d'excès de pouvoir. En d'autres termes encore, il est absolument naturel, et encore plus à l'heure de l'Internet, qu'il incombe au pouvoir public de veiller au principe fondamental « nul n'est censé ignorer la loi ». Et à l'édition privée de veiller, par sa valeur ajoutée, au respect d'un autre principe, nul juriste n'est censé ne pas comprendre la loi. Cette mission de diffusion du droit est en troisième lieu encadrée, et j'irai vite à ce sujet, tout simplement pour signaler que, ou souligner que la vision du droit de l'éditeur juridique ne se résume pas au droit qu'il diffuse. Il est lui-même un sujet de droit, comme toute personne physique, toute personne morale, et du reste, tout éditeur. Donc le droit est une donnée de sa propre activité. L'édition juridique est, à ce titre, un secteur réglementé par des lois d'ordre public, droit d'auteur d'un côté, droit du marché de l'autre, avec droit de la concurrence, droit de la distribution, loi sur le prix du livre. C'est une mission, vous disais-je aussi, qui a évolué. Sans sacrifier à la nostalgie des origines, il est possible de l'évoquer en quelques mots, d'évoquer en quelques mots une sorte d'âge classique de l'édition juridique, je ne dirais pas d'âge d'or, qui va en gros de la première moitié du XIXe siècle jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle. Et son essor se confond du reste beaucoup avec celui du Code civil auquel il doit son heureux destin. Le milieu juridique est alors homogène, sociologiquement assez fermé. Les auteurs et les lecteurs utilisateurs sont tous formés aux mêmes écoles de droit, partagent les mêmes modes de raisonnement, hérités principalement de l'école de l'exégèse et de l'influence du droit romain. Rien ne sépare alors l'émission de la pensée juridique de sa réception. Les disciples lisent avec ferveur la glose des maîtres. L'influence d'un droit étranger ou d'un droit supranational est nulle. Ces notions étaient anachroniques pour la première, le droit ne pouvait être que territorial, absurde pour la seconde, le droit n'était que l'expression de la souveraineté nationale. En somme, et en forçant un peu le trait, c'est l'époque du triomphe du droit savant, où la doctrine écrit pour la doctrine. Aujourd'hui, l'édition juridique doit aussi s'adapter à la demande de certains praticiens avides de réponses juridiques rapides. C'est ce que l'on peut appeler les impératifs du temps court. Qu'est-ce à dire ? Désormais, une certaine logique de marché fait que l'éditeur juridique s'adresse souvent à des praticiens, avocats d'affaires par exemple, soucieux de solutions juridiques concrètes, au moins autant qu'à des théoriciens férus de doctrine. Sous l'influence aussi de ce que l'on appelle communément la culture juridique anglo-saxonne ou l'américanisation du droit, il y a une recherche de solutions immédiates qui prend souvent le pas sur la quête d'arguments fondés sur le raisonnement. C'est le fantasme du raisonnement. Plutôt que de raisonner, certains praticiens, et on peut les comprendre, sont persuadés qu'existe déjà une décision leur donnant raison dans une situation en cause. D'où une mobilisation des rédactions internes pour commenter dans les plus brefs délais la loi la plus récente, la jurisprudence la plus nouvelle. Ou bien encore le développement d'activités de formation que l'on constate dans la plupart des maisons d'édition aujourd'hui. Alors on assiste à la naissance de nouvelles notions d'essence, il faut bien le dire, un peu marchande. L'exhaustivité, la quantité pourrait l'emporter sur la qualité. J'achète tout pour être sûr de tout avoir. L'actualité qui exerce aussi dans ce domaine une sorte de tyrannie. Un article a une valeur parce qu'il traite, par exemple, d'une réforme à peine adoptée. La réactivité, c'est la même idée. Un article a une valeur parce qu'il est le premier disponible. Vite écrit, vite lu, peut-être vite périmé, peut-être encore plus vite oublié. Le décryptage, le lecteur, utilisateur, veut un mode d'emploi, une explication de la loi et de la jurisprudence. Il veut quelque chose, pour employer les termes que nous entendons souvent, il veut quelque chose d'opérationnel, de simplifié, parfois de réducteur, tout le contraire du commentaire savant, érudit. Ici, la doctrine n'écrit plus pour la doctrine. L'éditeur ne peut que s'adapter à cette logique de marché. Dans l'édition juridique, comme en d'autres domaines, c'est bien entendu pour une part la demande solvable qui détermine l'offre. L'éditeur doit cependant veiller au maintien d'une qualité suffisante et éviter que la doctrine ne sorte désacralisée par ce processus. À cette fin, il doit accompagner ce mouvement, lui-même tributaire de l'inflation des texte juridique, car tout se tient, par une offre fondée sur le temps long. Il ne doit pas tomber, j'allais dire sombrer, dans cette fébrilité. Et pour faire équilibre, il doit faire la part belle, toujours, au droit que, faute de trouver une autre expression, mais pour me faire comprendre, au droit savant, au droit du temps long, du temps brodélien, si j'ose cette expression, par la publication, par exemple, de thèses. Nous en publions au moins une dizaine par an. D'articles de fond dans toutes nos revues trimestrielles, dans nos revues bimestrielles, telles la Revue française de droit administratif, par la publication de mélanges, qui sont une mine d'études doctrinales très très importantes, par la publication d'œuvres appartenant à l'histoire de la pensée juridique. Nous avons ces derniers mois publié les travaux, réédité les travaux de Georges Vedel, de Raymond Audin, de Paul Duez, pour ne citer que quelques exemples. L'éditeur juridique doit donc accompagner la diffusion placée sous le signe de la promptitude de travaux confiés à des auteurs qui légitimement demandent et prennent le temps de la réflexion. Ce dilemme entre diffusion de droit vivant et diffusion de droit savant doit être résolu par l'éditeur juridique. Il est en son pouvoir et en son devoir de le faire. C'est son supplément d'âme que de savoir répondre à ces deux exigences qui sont, du reste, souvent conjointes, fort heureusement. Même nos grands hebdomadaires combinent encore ce souci de rendre compte de l'actualité et de la réflexion fondamentale. Internet, enfin, et c'est un autre de ses mérites, permet aujourd'hui cette alliance dans le cadre d'un champ d'expression quasiment illimité, car il permet ce mariage heureux, indispensable, entre réaction immédiate aux droits nouveaux et études réfléchies. Tous nos sites, par exemple, comportent des renvois à la doctrine antérieure à l'actualité traitée par nos rédactions internes, ainsi qu'à la jurisprudence préexistante, et ils annoncent également les études approfondies qui vont suivre et publiées d'abord dans nos diverses revues. Grâce à la combinaison de ces outils, l'éditeur demeure au cœur de la vie du droit, dont il est à la fois, je dirais, le conservatoire et le laboratoire. Il demeure au cœur de son élaboration. Le législateur, le pouvoir réglementaire et le juge travaillent sur ses produits. Au cœur de sa diffusion, tous les juristes sont informés par ces mêmes produits. Au cœur surtout de cette harmonie qu'il établit et préserve entre information rapide et études et réflexions distanciées. Pour toutes ces raisons, et même dans le cadre de ces évolutions technologiques, la mission de l'éditeur juridique me paraît à certains égards demeurer immuable. Que devient en effet, dans ce contexte, le métier d'éditeur juridique ? L'émergence de produits numériques ne remet-elle pas en cause ce métier qui s'est forgé au temps de la seule suprématie du papier? Je ne le crois pas. Car ce métier, cette fonction d'éditeur juridique, continue et continueront de correspondre à une définition plus précise que je vous propose en trois points pour terminer. Éditer, c'est d'abord sélectionner des contenus en fonction de leur qualité intrinsèque, et de leur intérêt présumé pour un public donné. L'abondance de production des textes est telle que ce filtre est indispensable pour retenir, pour rendre visible ce qui présente un caractère original. L'éditeur juridique assure et assume cette première fonction de sélection. Éditer, c'est également convaincre les auteurs d'éviter deux écueils, le trop qui submerge, le trop peu qui caricature. Éditer, c'est enfin et cependant savoir s'effacer derrière les auteurs avec le secret orgueil et la silencieuse satisfaction d'avoir pris part à la diffusion d'une œuvre. Cette définition ne me semble pas éloignée du métier d'éditeur juridique du temps où seul le papier était le support des publications. Elle me semble donc encore pleinement applicable à l'édition juridique d'aujourd'hui, y compris numérique, complémentaire du papier. Les conséquences de l'Internet sont vertigineuses, y compris dans le monde de l'édition juridique. Je crois qu'on peut s'en réjouir et voir les chances pour l'édition juridique d'un dynamisme renouvelé, fécond et adapté pour la communauté des juristes. Désiré Dalloz aurait, je le crois, partagé ce point de vue. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Charles Vallée, président directeur général des éditions Dalloz. Sa communication s'intitulait « Le droit vu par un éditeur ». C'était le 28 janvier 2008, devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques.